Vous écoutez
RMC.
RMC.
Et justement pour ça, je présente vraiment toutes mes excuses à tous les Marseillais.
J'ai eu la réaction qu'une personne ne peut pas avoir et je suis prêt à m'excuser devant le journaliste.
Le PSG ne s'excuse pas, monsieur. Le PSG ne s'excuse pas, il n'a pas besoin de s'excuser.
Honnêtement, je veux seulement dire que je m'excuse.
J'ai fait une grosse connerie. Je suis là pour m'excuser.
Je dois juste dire à notre supporter, excuse.
RMC, l'afterfoot.
Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo, Kevin Diaz et Jimmy Brown. Avant de parler de l'avenir, de l'évolution du projet Manceau, avec notre invité Aymeric Magne, qui est actionnaire et membre du CA du Mans, qui va tout nous raconter d'ici quelques minutes. On va parler de l'équipe de France et j'ai une info quand même qui vient de tomber. Encore une, après Florentino Pérez et Mourinho. puisque Angers vient de communiquer et d'annoncer le départ d'Alexandre Dujeu, son entraîneur. Voilà. Donc, Dujeu a fait part à la direction de son souhait d'arrêter avec l'équipe professionnelle. Donc, le club prend acte.
Qui était un nom évoqué à Nice.
J'allais dire, il a peut-être déjà son point de chute.
Est-ce qu'on peut penser qu'il a Dujeu
sur le point devant
en partant?
Et peut-être également dans la liste à réfléchir pour Lens aussi.
Ça pourrait.
T'as vite quand même maintenant.
Oui.
Il y a peut-être une étape intermédiaire, non, avant Lens.
Oui.
Marc, on a eu la discussion avec Pantaloni, ça va la même chose. Donc.
Il n'y a plus d'étape intermédiaire dans le football français.
Bon, très bien. Voilà pour Dujeu. Mm-hmm. Les Bleus, tout de suite, donc demain, France-Côte d'Ivoire, à Nantes, bien sûr, ce sera en intégralité sur RMC.
Dujeu a été l'adjoint de Pantaloni, c'est pour la petite.
Pour finir l'histoire ?
Pour finir l'histoire.
On est complet, c'est voilà. Très bien. La fameuse réponse de l'after à Macron. C'est le moment. Donc on est lendemain de la victoire en Ligue des Champions du PSG. Les joueurs font le Champ de Mars. Ensuite, l'Elysée. Grand discours d'Emmanuel Macron, écrit au cordeau. Chaque mot est pesé, etc. Et là, il sort ça, le président de la République.
Et moi, je n'oublie pas tous les experts du foot qui expliquaient que c'était terrible quand Luis Enrique est arrivé. Tout ce qui allait mal faire, tout ce qui allait mal se passer, les doutes. On a vu hier un coach hyper concentré, qui n'a jamais lâché, qui a été un chef d'orchestre extraordinaire. C'est la meilleure réponse à toutes les critiques, ces deux étoiles.
Bon, très bien. Un coach hyper concentré.
Est-ce que tu penses qu'il se mettait lui-même dedans ? Il disait, les gens qui me critiquent, moi, ils verront.
Ah, tu crois que ça va jusque-là ?
Ah, il se met un petit peu. Alors,
lui, les deux étoiles, on les cherche, par contre.
Alors, il
parlait de toi, surtout.
Il n'est pas vraiment bien informé, parce que, en fait, quand il est arrivé, j'étais plutôt positif. C'est après. Mmh. C'est début de saison 2024 où je suis le plus dur avec Luis Enrique. Donc il est moins dans le truc au début, bien, après très critique, et après quand il a fini par faire ce que je disais, tout s'est correctement passé.
C'est incroyable de dire ça.
Bah il a pas changé sa com.
On va pas en parler.
Bah il a changé sa com ou pas ?
Finis ton argument.
Est-ce qu'il a juste tu peux répondre à cette question. Est-ce qu'il a changé sa com ?
Il a peut-être un peu adapté et appris le français.
Voilà. Mais il a changé sa com.
Un peu, mais
la façon qu'il avait de parler, il a arrêté.
Il reste des fois agacé ces dernières semaines. Il a envoyé 2-3 pics.
Il a quand même changé ça, comme.
Ouais, mais il est un peu
raconté,
des fois.
Et j'ai raconté 1000 fois que après un rendez-vous que moi j'ai eu avec la direction de la com à l'époque avec le PSG, je leur ai dit est-ce que vous pensez que c'est obligatoire pour notre club d'avoir quelqu'un qui parle aussi mal aux journalistes et qui se comporte de cette façon? Est-ce qu'on est obligé? On n'est pas obligé. C'est un type qui peut faire autrement. Et on m'a répondu oui, et on lui dit. J'ai noté qu'après, ça s'est passé différemment. Après, si tu veux pas me croire, mais je pense que tu me crois parce que tu me connais. Donc voilà.
Bon, après, il y a des trucs quand même.
Le dire comme n'est plus là, c'est celui qui est parti.
Oui. Qui bossait dans un journal auparavant.
Exactement. Et c'était en. C'était après l'épisode.
Quand tout allait mieux, quoi.
Non, c'était quand je l'ai vu, c'est après l'épisode avec. Comment ça s'appelle?
Avec Margot. La journaliste.
Margot Dumont.
Voilà.
Bon, ça c'est pour la com. Après, pour le reste, il y a aussi un truc. C'est, je veux dire, on a l'impression toujours qu'on passe, pas toujours des concours quand on donne des avis, tu vois.
Bien sûr.
Et on n'est pas là à vérifier des bonnes notes, des mauvaises notes derrière, tu vois. Parce que non, mais c'est ça qui transpire de sa façon de penser,
oui,
sa
mais
façon
c'est pour ça,
de parler.
En fait, il fait un lien avec la politique sur.
Moi, je pense qu'il fait un peu de démagogie.
Oui, voilà.
C'est un truc facile à dire.
Machin,
voilà.
Il était. Mais en fait, tous les entraîneurs, Deschamps, on a critiqué. Ouais. Quel entraîneur n'a pas été critiqué? Tout le monde.
Et toutes les fois où on a critiqué,
ça se passe pas bien. Tu le dis. Moi, au moment où ça se passait pas bien, que je sache. Après, ça se passe bien. Bah, tu constates pourquoi ça se passe bien. Après, tu peux être un idéologue et penser. Bon, par exemple, moi, je ne l'ai été qu'une seule fois. C'était Bielsa. Ah, vraiment, moi, j'avais une espèce de passion pour ce mec-là. Ah, même quand ça se passait moins bien, j'avais du mal. à le voir. Mais globalement, je ne le suis pas. Donc, je suis en fonction de ce qui se passe. Mmh. Après, que le supporter, lui, soit fidèle tout le temps et dise, non, il est pas nul, ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça va bien se passer.
Il y avait des consultants aussi, quand même, qui pensaient que ça pouvait bien finir.
Oui, mais toi, t'es un idéologue.
Non, je suis pas un idéologue.
Si, ben pourquoi
non.
Mais enfin, quel, y a pas, c'est pas une insulte.
Mais tu sais,
hein.
Non, mais
c'est pas une insulte. T'as le droit d'aimer quelqu'un.
C'est en aucun cas une insulte et je ne le prends pas ainsi.
T'as le droit d'aimer quelqu'un coûte que coûte. Mais parce avant, que moi, je te le dis, ça m'est arrivé sur plein de mecs.
Non, mais même quand toi, il t'agaçait, moi, je pense que ce qui t'agaçait, c'était OK, les inventions, OK.
Ah oui.
OK.
Et après, elles se sont arrêtées comme par hasard.
Oui, mais pour moi, n'importe quel savant, avant de réussir, eh ben, il a des échecs.
Eh ben, y a pas de.
Et encore, si on considère qu'une demi-finale de Ligue des Champions perdue après avoir mis 5 poteaux sur l'aller-retour, c'est vraiment un échec. Mais en l'occurrence, ce n'était pas mon cas.
Mais moi, je n'oublierai pas que le savant dont tu parles, le club, à un moment, en décembre...
Oui, mais ce n'est pas grave, ça. Les gens peuvent douter.
Oui, mais Kevin, quand le club dit « si nous ne sortons pas de la phase de poule, ce ne sera pas un drame... »
C'est pas la première fois dans l'histoire du foot. Ah, pas un drame, ok.
Je pense qu'à ce moment-là, je pense que tout le monde est dans le doute. Je pense que tout le monde est dans le doute.
Alors tout le monde est certain que ça va finir par payer.
Et que le savant, ou d'un coup, sur un match qui bascule à la 55e, d'un coup, tout se met en ordre... Écoute,
non mais je suis voilà, d'accord là-dessus Daniel.
Je pense
mais
qu'à un moment il y a d'autres décisions qui sont prises.
C'est l'histoire
et des décisions qui deviennent excellentes. C'est... Alors que avant elles n'étaient pas bonnes.
Mais maintenant, ok, je te réponds. Mais est-ce qu'on peut considérer...
Non mais là excusez-moi. Donc refaites le débat Luis Enrique. Alors que c'est pas vraiment ça. C'est plus la perception
c'est
du
la
débat.
Perception, les
non.
Critiques.
Oui mais le truc c'est que moi ce qui me choque c'est qu'en fait il y a eu un grand débat d'idées à un moment où il pouvait y avoir un débat d'idées. Il y avait des pour, il y avait des contre, etc. Et c'est pas parce que maintenant Luis Enrique a gagné que les gens qui le critiquaient à l'époque avaient tort et doivent être blâmés.
Et pourquoi Deschamps qui gagne la Coupe du Monde, qui était critiqué, ouais. même en vainqueur, même toi, j'aime pas son jeu et tout, on pourrait te prendre pour un fou de la même façon. Pourtant, t'argumentes et tu dis j'aime pas pour ceci, pour cela.
Mais moi je te prends pas.
Sauf que
moi, je te prends pas en aucun cas pour un fou.
Hein?
Je te prends en aucun cas pour un fou.
Je n'ai pas dit que tu me prenais pour un fou. Je dis qu'il y a des cas où ça passe différemment. Il y a des coachs qui, même quand ils gagnent, on peut les critiquer. Mais parce qu'il suscite un intérêt qui frise le côté un peu passionnariat, idéologie. Voilà. Mais moi,
quand tu dis que le club.
Deschamps, il gagne, on a le droit de le critiquer. Simeone, il gagnait avec ses peu de moyens et tout, c'était affreux et tout. Arteta, il gagnait avec Arsenal, puisque ça se joue qu'au péno. Bah, je pense qu'il aurait été critiqué. Quelle équipe dégueulasse.
C'est tout. Non, mais là où
c'est
pas d'accord.
Prenne des proportions au point qu'un président de la République vient de dire, tous ceux qui l'ont critiqué et tout. En plus, oui, il y en avait beaucoup. Il n'y avait pas que moi, même si moi j'étais peut-être le plus en première ligne. Et alors donc? Mais moi, la vérité, c'est que ça me flatte énormément.
Moi, tu sais ce que je me suis dit? Je me suis dit, en fait, Emmanuel Macron, il est comme n'importe quel mec sur Twitter. Et il voit les vidéos qui remontent en permanence. Et on a l'impression qu'effectivement, il y avait tout un tas de critiques, alors qu'il y a eu quelques émissions où il faisait pas.
Où son conseiller
capitaine. Oui, c'est ça, autour de lui.
Mais juste, moi, ce qui m'intéresse pour recentrer un petit peu le débat, c'est l'empressement.
Je l'ai pas recentré, là.
Non, mais je suis sur Emmanuel Macron. Le truc fou, c'est, tu regardes la vidéo, tu regardes même Luis Enrique pendant qu'il parle, peut-être pas sur cette. Il lève les yeux au ciel, à un moment donné, il dit mais en fait qu'est-ce qui...
Voilà.
D'où c'est quoi son rôle en
parce fait, que la vérité c'est que Luis Enrique il s'en fout.
Il n'a rien à
suivre.
Parce que lui,
il est dans un autre mode de communication qu'il a initié depuis l'époque Twitch et tout ça. En fait il s'en fout de ça. Et si dans son doc il met une première phrase de l'after pour commencer, c'est que lui il se nourrit de ça.
Il est limite
il
gêné.
Il le savait qu'il était fracassé à ce moment-là, puisque même au club on lui disait dis donc on comprend pas trop comment ça se passe et tout ça, qu'est-ce que tu fais. Mais lui il était droit dans sa ligne et il voyait où il voulait aller. Mais c'est très bien, parfait. Mais sauf que t'as le droit de dire à ce moment-là il y avait beaucoup de supporters du PSG, il dit pardon, on comprend pas ce qui se passe.
Et je pense que sur la séquence, Luis Enrique, il est gêné qu'il l'utilise un peu à des fins politiques.
Oui, c'est ça.
Et d'ailleurs, si tu continues la séquence, deux jours plus tard, il est à Clairefontaine, il y a la photo, et il vient te choper Kylian Mbappé comme ça pour lui dire viens te mettre à côté de moi.
De la photo,
l'enchaînement des deux, c'est un peu beaucoup quand même.
Viens à côté de moi parce que je suis le boss. Je sais pas, je disais tout à l'heure ça plus le truc de la housse Mbappé homme politique potentiel ou machin, la politique par le sport.
Non, le vrai,
de toute façon, on a vécu 3 jours de récupération politique, que ce soit de Macron de cette façon, que ce soit des extrêmes sur les ce qui s'est passé dans les rues de Paris. Ça a été 3 jours, on se sert du foot pour se faire de la pub en politique, hein. Tu voulais dire un truc, Kevin ?
Non, j'allais dire que le pire, c'est que c'est maladroit, en fait, parce que je pense que Luis Enrique ou que Kylian Mbappé ne veulent pas ce genre de
choses. Mais tu leur rends pas service, bien sûr, tu leur rends pas service.
Et là, c'est peut-être, voilà, les politiques qui admirent forcément les grands sportifs et qui veulent les défendre sans le faire comme il faut.
D'accord, qu'on s'est tous dit sur le discours de Macron que ça pouvait être un discours tapé par Flo Gautreau sur IA. La semaine dernière, ça sonnait de la même façon. Bon, alors, allez, le match des Bleus. On avance. Le match des Bleus contre la Côte d'Ivoire. Donc, on a une compo probable pour le match de demain. Donc, vous la voulez ? On y va. Maignan dans les buts. Koundé, Konaté, Upamecano, Hernandez. Ça ressemble à la défense qui débutera la Coupe du Monde en ajoutant Saliba. D'ailleurs, Deschamps était rassurant
Théo
sur Saliba.
Hernandez, hein.
Oui, Théo Hernandez. Oui, parce que les Parisiens sont pas concernés par le 11 de départ, parce qu'ils sont arrivés un peu plus tard. Donc, William va bien, il va être géré. S'il avait fallu jouer demain, il aurait joué.
Mais je l'ai dit qu'il allait bien, je l'ai dit avant-hier.
Donc tout va bien. Oui, mais alors,
c'est marrant,
je te fais une grande confiance, mais je me dis juste que Deschamps.
Depuis que j'ai mon cabinet médical,
Daniel, t'as raison, j'ai fait une erreur.
Sur l'équipe de France, sur les diagnostics, équipe de France, il est injouable. Autant parfois en club, ça peut être bancal. Dès qu'il s'agit des Bleus, il est injouable.
C'est vrai. Non, mais t'as raison, j'ai bêtement cru Deschamps et son staff, alors que tu l'avais dit. C'est mieux.
N'oublie jamais que dans un tribunal, devant un juge, il y avait Francky Le Gall et moi.
Je sais, j'étais là.
Qui a eu raison dans cette histoire? Moi.
Voilà. C'est ce que la justice a dit.
C'est voilà.
Bien sûr. Mais t'as raison, Jimmy, surtout en période de Coupe du Monde.
Bien sûr, il a un doigt. Là, c'est.
Le gars, il a retourné les
épaules. Il pourrait opérer un mec.
Il est docteur de l'équipe.
Il pourrait opérer un mec.
On n'a pas d'appel sur cette histoire. Non. Il n'y a pas eu de nouvelles.
Non, sur cette partie-là, s'il n'y a rien pour.
C'est fini. Ah, rien de pour bouger. Très bien. Donc, j'étais sur ma défense. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Rabiot. Et le quatuor offensif, donc Olise, Cherki, Thuram et Mbappé. Donc. Parce que
bon, on est quasi dans une équipe type.
Il manque les Parisiens.
Oui.
Dembélé doué peut-être. Doué, peut-être le quatrième offensif.
Doué, c'est pas sûr qu'il soit titulaire. Hein.
Non, c'est vrai.
Je le donne pas titulaire certain, au contraire de Dembélé.
Enfin, Thuram, il part titulaire, tu penses ?
Non.
Bah et donc.
Non, c'est-à-dire qu'il y aura Thuram, une incertitude.
Remplacé par Dembélé.
Tu mets Cherki titulaire toi ?
Moi,
j'adorerais, mais je pense pas.
C'est une indication qui est intéressante à voir.
En tout cas, Cherki va jouer 10, c'est Dembélé qui joue 10.
Ce serait peut-être Olise derrière, mais le débat se posera dès qu'on en arrivera et qu'on sera aux États-Unis. L'idée d'aller faire jouer des mecs dans des positions différentes de celles qu'ils occupent en club, alors que t'es pas complètement obligé de le faire si tu prends réellement sur le papier les joueurs, je comprends pas pourquoi se casser la tête à faire un truc pareil. C'est tellement simple. Mais après, peut-être qu'on aura une théorie laboratoire et là, Kevin nous présente. Mais je trouve que ça sert à rien le laboratoire parfois. Quand les choses peuvent être simples, autant faire simple.
Sur l'association Cherki-Mbappé, c'est Younes Belanda qui disait dans Génération After tout à l'heure qu'il n'imaginait pas les voir associés au départ pour des questions d'équilibre d'équipe. Ces deux joueurs qui sont peut-être un peu plus avares d'efforts défensifs que les autres et ils s'imaginent mal les voir démarrer les deux. On verra.
Bon, moi j'aimerais que les mecs occupent les places qu'ils ont en club. Donc Olise
à droite.
Olise à droite, mais Dembélé
dans l'axe, c'est que le seul qu'on déplace par rapport à ce qu'il fait, c'est Mbappé, sauf qu'on retrouve sa position préférentielle de quand il a été fort.
Non, mais ce sera pas le cas.
Mais je te dis pas que ce sera le cas.
Trois seulement. Pas avec quatre offensives.
Non, donc pourquoi pas avec un mec derrière, si ça doit être un mec derrière.
Doué peut très bien faire le numéro 10.
Cherki, c'est ce qu'il fait globalement, c'est là où il est le meilleur. Donc utilise les mecs dans les positions qui sont les meilleures pour eux. Ouais, ça paraît logique.
Ça n'arrivera pas.
Des fois, le foot est simple, demande à Kevin.
Après, attention, parce que le
foot. Avec Deschamps, c'est pas tout le temps simple.
Le foot n'est jamais simple, le foot est toujours complexe.
J'adore mettre un point comme ça. C'est le rêve.
Oui, les gens n'ont pas vu à la radio, mais il a tendu le doigt.
Non, mais j'allais dire que, attention quand même, parce que tu vas jouer contre le Sénégal qui est un gros milieu terrain. Donc, avec tes quatre offensifs, si tu mets Cherki et Mbappé, tu peux quand même, des fois, te prendre des phases de transition.
Les
très rapides.
Du Sénégal, ils peuvent te mettre une grosse intensité.
Voilà.
C'est ça. Ce sera le premier match le 16. Et puis, alors, il y a une petite réponse de Koundé sur le statut de favori. Vous en avez parlé lundi. T'en as parlé d'ailleurs, Daniel, parce que t'aimais bien comment Deschamps a un peu recadré les choses. Ouais. On peut l'écouter, Koundé, et vous me dites si niveau com, c'est bon, s'il a passé l'oral.
Ça, je vous le laisse. C'est des choses que vous aimez bien faire.
Est-ce qu'on est dans le top 3 des favoris?
Vraiment des choses auxquelles on fait attention. Après, bien évidemment, on sait qu'on est une équipe avec de la qualité et qu'il y a beaucoup de gens qui nous voient comme un des favoris. Après, c'est comme je l'ai dit, on est conscient de l'équipe qu'on a et on a aussi beaucoup d'ambition. Mais il faut aborder les choses, chaque nouvelle compétition avec beaucoup d'humilité parce que on sait à quel point c'est difficile d'aller loin dans les compétitions. Et même si on a encore une fois une très bonne équipe, il y a aussi plein de bonnes équipes en face. On y va vraiment pas à pas.
Voilà. Il veut pas faire la petite.
C'est vraiment utile d'entendre ça. Là.
Non, mais c'est pour savoir s'il maîtrise la com là.
Koundé, mais là, waouh.
Au début, la question c'est
ChatGPT là.
Est-ce qu'on est dans le top 3 des favoris? Et là, il veut pas y aller. Il veut pas qu'il y ait une la petite phrase reprise.
Ce qu'il veut. Voilà. Comme il... Mais de toute façon, il l'a dit très clairement. C'est un boulot pour vous. Donc nous, dans notre analyse, au vu de l'effectif, de ce que font les mecs en club, de qui ils sont, bah, évidemment qu'on, moi, je mets pas top 3, je mets top 5. Pour moi, je détache 5 équipes. Après, t'as tous les aléas de la Coupe du Monde, une blessure, un match qui tourne pas bien, un carton rouge au mauvais moment. 5, mais l'équipe de France,
c'est
largement
dans
un top
3. Si c'est la France, ils sont pas dans les 3, qui est dans les 3?
Je veux dire, top 5.
Si tu dois en dégager 3, tu es bien sûr que la France est dans les 3.
Mais il n'est pas question de se mouiller ou pas. T'as des équipes qui ont beaucoup de bons joueurs, que tu parles de l'Espagne, du Portugal, de l'Allemagne, de l'Angleterre, ou de l'Argentine, c'est que des mecs qui jouent dans des grands clubs. T'es obligé, voilà, pour moi, c'est un groupe, il y a un groupe de favoris. Après, moi, je me fous de savoir s'il est un favori 1 ou favori 2 ou favori 3. Je suis pas bookmaker non plus, hein.
Pour les bookmakers, c'est Espagne et France.
Voilà. On est dans le top 2.
On voit
top
Jimmy maîtrise.
Oui, ça, c'est son truc.
Voilà. Les paris.
Oui.
Bah, c'est le seul ici. Dans une seconde, Aymeric Magne avec nous, donc, pour parler du Mans, dans l'after. Si vous êtes supporter du Mans, on vous attend au 32-16.
Personne n'aura manqué aujourd'hui la décision du CA de la Ligue. Je sais que c'est des sujets qui intéressent notre invité.
Quel dirigeant peut passer dans l'after sans penser qu'il aura une question sur la gouvernance? Voilà.
Mais parce que je sais que ça l'intéresse.
Allez, à tout de suite.
En plus, maintenant, il est en Ligue 1.
Ouais. Bien sûr. À tout de suite.
RMC, l'after foot.
Jean-Louis Tour.
23h17, c'est l'after avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz et avec Jimmy Brown. Et on va donc parler de ce projet Manso avec notre invité, puisque Aymeric Magne est en direct dans l'after. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous êtes, je vous disais, le représentant de l'actionnaire. Vous êtes membre du conseil d'administration également, actionnaire aussi donc du club du Mans qui monte en Ligue 1. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu votre rôle? Comment ça fonctionne donc, avec en plus le président qui est en place? Comment ça s'organise?
Donc en fait, le groupe qui a racheté le club s'appelle Oatfield. Oui. Oatfield, c'est un fonds d'investissement. C'est pas un gros mot, on pourra revenir tout à l'heure. Et mon rôle, c'est de représenter l'actionnaire, c'est-à-dire de faire passer la vision auprès du président des actionnaires. Et auprès des actionnaires, de leur faire comprendre le marché français, qui est différent des autres marchés. D'où je tiens ça, c'est qu'en fait, j'ai travaillé avant chez Colony Capital et chez City Football Group. J'ai vu des choses bien, j'ai vu des choses moins bien. Et je trouve qu'accompagner un actionnaire, c'est intéressant, puisque le rôle d'un président, c'est de gérer le club. C'est pas forcément de passer 50% de son temps à discuter avec ses actionnaires, ce qui était mon cas quand j'étais chez City Football Group.
Okay. Okay. Qui sont concrètement les gens qui ont l'oseille au Mans? Et combien ils ont? Est-ce qu'ils veulent développer le club, en faire un grand club? Comment ça va se passer? Parce que là déjà, il y a la montée qui est totalement inattendue. Quand on est venu avec l'after au Mans, on recevait Thierry Gomez, le club était quand même haut au classement, mais on n'arrivait pas à imaginer que ça puisse aller en Ligue 1. Donc qui sont les gens derrière? Combien il y a d'argent? Quelle est la taille du budget, l'ambition?
Alors le fonds Oatfield gère 150 millions d'euros d'assets, donc d'actifs. Derrière eux, ils sont avec un fonds qui s'appelle Tricorp aussi, qui gère 600 millions d'actifs. L'objectif, c'est pas de, pour être clair, hein, pas de dépenser 100 millions et de construire un club n'importe comment. C'est de construire un club étape par étape. Le seul problème, c'est que on est un peu trop vite sur les étapes. Pour la petite histoire, en octobre 2024, c'est le début de nos discussions avec Thierry Gomez. Le Mans FC est 13e de national. Ensuite, il y a 20 victoires d'affilée, quasiment, enfin 20 matchs sans défaite. Ils montent en Ligue 2. Quelques semaines après, on conclut l'accord. Avec un objectif de se maintenir le plus rapidement possible en Ligue 2. Bien entendu qu'on aide Thierry Gomez sur l'investissement pour pouvoir assurer, on va dire, une équipe qui peut se maintenir.
Oui, l'idée, c'était la montée sur 4 ans, non? C'est ça?
Ah, exactement. Ouais. L'idée, c'est de construire un club qui monte sur 3-4 ans en Ligue 1 et ensuite qui s'installe en Ligue 1 de manière stable. Mais on n'avait pas pour idée d'arriver tout de suite sur de la Ligue 1. C'est presque trop rapide pour nous, parce qu'on arrive dans un moment où on n'a pas eu le temps de construire les fondations du club. On n'a pas de valeur de joueurs pour pouvoir vendre et pour pouvoir un gros budget. Donc on n'aura pas un budget de folie l'année prochaine. On va assumer, on va dire, un budget entre 25 et 30 millions. Et on assumera le risque.
25 et 30 millions en Ligue 1 l'année prochaine.
Et on assumera le risque. On assumera le risque de descente. Mais après, on construit le club de manière sereine. On avait le 13e budget de Ligue 2. Et on a fini deuxième du championnat.
Mais les gens qui ont mis l'argent, là, bientôt on donnera les noms, tout ça, le public sait qu'il y a beaucoup de stars, beaucoup de gens connus dedans. Mais qu'est-ce qui les a motivés? Parce que y a plus de droits de télé en France, y a pas de renta. Comment on gagne de l'argent? Pourquoi ils sont venus en fait? Qu'est-ce qui les a intéressés?
Qu'est-ce qui les a intéressés? C'est le projet. Ils sont venus pour le projet. Ils ont mis de l'argent. Ils n'ont pas mis seulement leur nom, c'est important.
Et Djoko, il a mis d'oseille.
Oui, ils sont pas venus avec leur nom.
Djokovic, il a mis de l'argent de sa poche.
Oui.
Mais il a combien?
Non, mais ça, je peux pas vous le dire, ça, bien non, entendu, vous savez bien.
Idée,
Non, mais il a mis de l'argent, je peux pas vous donner d'éléments, si on est sous contrat, ça c'est normal, mais chaque personne qui
est venue... c'est quantité négligeable ou ça
non,
vraiment...
c'est pas, c'est une quantité non négligeable.
Okay.
Et c'est pour ça que c'était un des points importants. Quand nous, on a construit le projet, on a étudié avec le fonds Outfield à peu près 100 clubs en Europe. On a étudié tous les clubs français, on a discuté avec 4 clubs, il y en a qu'un qui est ressorti tout de suite, c'est Le Mans FC, pour plusieurs raisons. La première, c'est on avait une gouvernance stable avec Thierry Gomez qui avait fait un très bon travail. On avait une ville qui était à 45 minutes de Paris, d'accord, c'est pas neutre, c'est le premier voire deuxième marché mondial.
En TGV quand il n'y a pas de retard.
En TGV quand il n'y a pas de retard, mais on est dans un environnement sain, tout de même à 2 heures de Paris. On peut développer des joueurs, on peut leur donner du temps de jeu. La théorie aussi d'Outfield, c'est de se dire on va être présent sur les deux plus gros marchés, que sont le Brésil et la France, à savoir qu'ils ont un club aussi au Brésil. Il y a une zone de chalandise de 350 000 personnes et des infrastructures sublimes. Le stade Marie-Marvin.
Mais attendez, je reviens quand même à Djokovic là. Ouais. C'est, tous ces arguments-là convainquent Djokovic.
Bien sûr.
Djokovic, il est pote avec.
Ou il est pote avec Goudzin.
Georgios Frangoulis. Qui est le patron d'Ogberry et le futur mari de Zabalenka.
Le patron. Celui qui a le plus mis d'argent, qui est l'actionnaire majoritaire, c'est qui?
C'est Outfield. Et en fait, c'est un fonds.
C'est pas Frangoulis.
Non, Frangoulis, il met de l'argent dans le fonds. Djokovic, il met de l'argent dans le fonds. Et c'est ensuite le fonds qui acquiert avec ces personnes qui sont derrière.
Et vous investissez ailleurs que dans le foot, j'imagine, de fait?
Oui, ils investissent. Donc, c'est la partie Outfield qui est la partie sportive. Ils investissent dans pas mal dans la tech au Brésil, sur par exemple de la billetterie, du contrôle d'accès.
Pardon de vous couper. Donc, quand Djokovic investit, il investit dans Outfield ou il investit dans Le Mans FC?
Un fonds, ça fonctionne en plusieurs. Ça se sépare en plusieurs fonds, en fait.
Plusieurs branches, d'accord.
Il y a un fonds dédié au Mans FC.
D'accord.
Donc Novak Djokovic, il investit à 100% sur le Mans FC.
D'accord. Et comment il trouve ça rentable? Comment, si vous lui vendez quoi pour être rentable? Parce que comme disait Daniel, il n'y a plus un droit télé, il n'y en a plus un blé en France. C'est j'imagine sur une potentielle revente du club dans X années.
Voilà, qu'on soit assez clair. Aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de fonds d'investissement ou d'investisseurs qui viennent dans les clubs? C'est parce qu'il y a déjà un prix d'acquisition qui est raisonnable.
En tout cas,
raisonnable. Avec nous, on a choisi un club où il y avait des structures, des infrastructures, comme je l'ai dit, aussi un centre d'entraînement, etc., etc. Et avec, on va dire, un management qu'on va venir renforcer, parce qu'on estimait que Le Mans FC en national, c'était une sous-performance par rapport à la taille de la ville, par rapport aux infrastructures du club et son histoire. Et derrière, on va pas gagner d'argent dans un club sur le day to day, c'est-à-dire sur le PNL de la saison. On va le gagner, on va l'acheter X et on va le revendre 4X si on travaille bien. C'est là-dessus qu'on va trouver la rentabilité. Et l'objectif...
C'est de pas trop injecter d'argent dans cette période.
Exactement.
Aussi.
En tout cas, c'est d'être à l'équilibre sur la gestion du club. Au départ, bien entendu, on est obligé de mettre des fonds parce qu'au départ, on est obligé d'investir sur les infrastructures, sur les joueurs. Au bout d'un moment, il commence à y avoir une valeur sur les joueurs. Nous, ça nous aurait pris 3-4 ans quand même à faire, parce qu'il y a le centre de formation, c'est quand même un point extrêmement important.
Donc la ville vous a revendu... Vous pouvez racheter le centre d'entraînement et donc redévelopper le centre de formation qui n'existait pas, c'est ça?
Alors on a racheté le centre d'entraînement et on a investi sur l'académie qui n'existait plus, puisque le club est descendu en division 6.
Vous avez expliqué qu'on a un budget pour l'académie, quoi, 10, 15 millions?
Non, pour l'instant on a mis 4 millions, si vous voulez des chiffres. C'est pas non plus, on n'a pas non plus la catégorie 1 tout de suite. On fait étape par étape aussi. Il faut construire. On a la validation de la FFF et on l'aura officiellement au 1er juillet. Donc là, on peut garder nos joueurs, parce que ce qui se passait avant, c'est qu'on perdait nos joueurs. On en a perdu un qui est parti à Nice par ailleurs, gratuitement, parce qu'en fait, on peut pas les garder avant 20 ans. On pouvait pas signer de joueurs.
Okay. Et quand vous investissez, vous avez une échelle en vous disant, voilà, on est là pour 5 ans, 10 ans. Vous avez déjà à peu près, il y a une prévision sur la sortie?
Dans les fonds, de manière générale, on est entre 4 à 7 ans d'investissement. Voilà. Après, parfois, il y a des fonds, et celui d'Outfield, ils ont des fonds avec des durées un peu plus longues, c'est plutôt des durées de 10 ans. Voilà. Parce qu'on sait que sur un club comme ça, il faudra quand même construire tout ça. Il y a quand même 4-5 ans pour monter en puissance. Et ensuite, on sera à peu près, on estime à, voilà, ce qu'on appelle en running. La vitesse de croisière. Et c'est là, on va commencer à pouvoir regarder pour potentiellement.
Ça apporte quoi, d'avoir ces vedettes? Parce que bon, il y a Djokovic, Thibaut Courtois, Sabalenka et son mari.
Felipe Massa. Kevin Magnussen. Et d'autres vont arriver? Et je te donne
d'autres vedettes.
En tout cas, d'autres investisseurs connus.
Mais des sportifs.
Et pourquoi ils se rassemblent tous autour du Mans? C'est d'abord ils se connaissent entre eux.
Bah, comme on l'a dit,
ils font la Formule 1.
Parfois, en fait, voilà, c'est aussi pourquoi Joko il vient. Bien entendu, c'est le projet, c'est la première chose, mais c'est aussi des réseaux. Je veux dire, si Joko il est venu, c'est grâce à Georgios qu'il connaissait très bien parce qu'il était, il est très présent dans le tennis avec Sabalenka, parce qu'il a aussi la marque Hochberry qui est sponsor de la Formule 1, de Alpine notamment. Et c'est comme ça qu'on a ramené Felipe, ensuite Kevin. Et du coup, pour eux, plutôt que d'investir tous les joueurs, vous le savez, ils investissent dans l'immobilier. Ils ont un investissement qui est peut-être un peu plus à risque que de l'immobilier, mais c'est leur cœur de métier. Ça les excite un petit peu et ils nous apportent quelque chose. Oui, parce que Felipe, il est déjà venu plusieurs fois. On voit que les messages qui sont passés avant le match... Je pense que c'est pas que de l'image. Je pense que quand on investit l'argent, c'est que c'est
la diversification. Mais quoi, ils viennent, ils parlent au groupe.
Mais c'est aussi un investissement passion. Tu vois, la vidéo de Courtois, quand il monte, il est comme un dingue,
parce
Djokovic,
que c'est bon
etc.
C'est le seul qui connaît le foot. Donc, on peut imaginer que ce gars-là, s'il vient un jour, il peut parler à votre gardien.
Non, mais Mbappé, il a racheté un club, donc on peut comprendre que les joueurs.
Bien sûr.
Mais fait Novak, par exemple, en termes de performance et de mental, je pense qu'il n'y a pas. Enfin, c'est
le gros. Il faut en parler au club, bien sûr.
Non, il faut qu'il vienne en parler au club, etc. Pour ça,
il faut savoir quand même que Novak, c'est, il joue encore au tennis. Vous connaissez les calendriers du tennis. Bien entendu, qu'il va passer, c'est prévu. On n'a pas encore les dates parce que ça dépend de ses performances sportives et sa priorité.
Et vous savez s'il se renseigne sur les résultats
Je sais pas. Vous savez, c'est, je suis sûr qu'il se renseigne sur les résultats. Il regarde à chaque match. Il tweet. Il met sur son Instagram. On le voit plusieurs fois faire aller Le Mans sur tout ça.
Donc il va prendre l'abonnement Ligue 1 Plus.
Bah, il a déjà pris.
Non, là, il avait beIN Sport jusque-là. Mais là, il va passer à Ligue 1 Plus.
Non, Ligue 1 Plus, c'est existait déjà l'année dernière.
Non, mais il
est Ligue 2.
Il a anticipé.
Il fallait qu'il regarde la Ligue 1 pour voir à quoi il allait se frotter. Là,
non, c'est incroyable, ces vedettes. Oui, c'est vrai que
Il faut noter la date de Le Mans PSG dans le calendrier, là où il y aura tout le monde. Quoi. Ils vont tous être là. C'est Daniel, il faut l'inviter pour Le Mans PSG. Tu vas voir tout le monde.
Le Mans PSG ou
au Marie-Marvin. Non, au stade Marie-Marvin. Ils seront tous là. Tu auras Joko à côté de Daniel, à côté de M. Franck Goulis.
Avec grand plaisir, sachant que le stade Marie-Marvin n'a jamais vu la Ligue 1.
Ouais, c'est vrai.
Et Franck Goulis, il fait pas des boissons un peu bizarres.
Si, il fait c'est du açaï. C'est un fruit brésilien qui est en fait une boisson énergétique naturelle au Brésil, qui est très prisée par notamment les surfeurs et qui donne vraiment de l'énergie, mais de manière naturelle.
Ah sur la plage, ils te vendent que ça.
Bah, exactement. Et il a commencé il y a 8 ans.
Envoyez-nous un ou deux cartons, là, on va voir si ça marche vraiment.
Je vais lui demander, il est encore à Paris, je sais pas s'il est déjà parti ce soir.
Ça marche du tonnerre, cette boisson. Je veux dire, c'est un vrai gros business.
Je crois qu'il y a plus de 1000 boutiques dans le monde maintenant. Il y en a 5 à Paris. Ça marche.
La Acai Bowl, t'as jamais entendu parler de ça?
Non, je ne connaissais pas cette boisson.
Bien sûr.
On continue de parler du Mans dans une seconde. On va parler quand même de l'année prochaine, de la Ligue 1, de l'entraîneur, et puis des questions sur la gouvernance.
Qui est convoité.
C'est pour ça. On va en parler dans une seconde. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot.
Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo, Kevin Diaz, Jimmy Brown et notre invité Aymeric Magne, qui est donc le représentant de l'actionnaire Outfield au Mans. Est-ce que Patrick Vieira sera toujours l'entraîneur la saison prochaine?
Il est sous contrat, il est important pour nous dans le projet, donc oui.
Alors qu'il est convoité, on est d'accord?
C'est une rumeur, je peux pas commenter les
rumeurs. Ah non, c'est pas une rumeur, c'est une info RMC Sport. Donc il est sur la shortlist de Lens, donc voilà.
En tout cas, il est sous contrat.
Donc on a un coach qui est en Ligue 2 et... certains l'envoient comme, enfin, en tout cas, il est sur une liste de candidats pour Lens. C'est
un coach qui était en Ligue 2, avant était en N1 et avant était en N2.
Donc là, le fait qu'il soit sous contrat, ça veut dire que si un club le veut, il faut payer.
Oui.
D'accord. Mais là, vous voulez le garder.
On veut le garder. C'est un coach, c'est un super coach. Il a fait 2 montées d'affilée. C'est quand même extrêmement rare avec un effectif. Qui n'était pas forcément sur le papier l'effectif le plus performant. Il a fait surperformer collectivement et individuellement les joueurs dans un état d'esprit. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu les matchs du Mans, mais dans un état d'esprit vraiment.
C'était très agréable. Match, après, avec tout le respect pour le Mans, on peut considérer que si Lens veut Vieira et que Patrick Vieira veut aller à Lens, ça va se faire. Parce que là, ils vont récupérer une indemnité sur Pierre Sage et de la même manière, ils paieront une indemnité au Mans pour. J'imagine que le contrat de Pierre Sage est plus important que celui de Patrick Vieira, pour dire les choses simplement.
Je ne connais pas le contrat de M. Sage à Lens, mais...
Non, mais je suppose qu'un contrat d'un club de Ligue 1, c'est a priori promu de Ligue 2.
Non, mais de toute façon, aujourd'hui, pour un club comme Le Mans, garder un entraîneur comme Vieira, c'est trop important. Alors bien sûr que s'il le laisse partir parce qu'il a une offre incroyable et que le club s'en sort, mais de toute façon, ce sera une perte énorme parce que le gars, il est là depuis 2 ans. Non, mais c'est pire. C'est pire que Sage à Lens, là. Il a créé une aventure humaine d'un club qui, il y a 6 ans, était en DH. en R1. Donc c'est un club qui a grandi avec son entraîneur, avec des joueurs aussi. Et les joueurs, c'est aussi les joueurs, c'est important quand même. Les joueurs, la majorité des joueurs du Mans étaient en national il y a deux ans.
Juste sur, pour finir sur l'entraîneur, vous bossez quand même sur un plan B au cas où il s'en aille.
On bosse sur un plan, sur notre plan A, c'est notre, notre entraîneur sous contrat.
Oui, mais j'imagine quand même qu'il y a des pistes. À partir du moment où on sait qu'il est convoité, vous travaillez quand même au cas où un club arrive avec la fameuse indemnité, non ?
On travaille sur notre plan A.
Bon, d'accord, très bien. Donc, oui, les joueurs, tu voulais insister.
Autrement la question pour voir.
Non,
trouve une autre formulation. Non, voilà, ça peut marcher. Hein.
J'ai tenté, c'est bon. Tu voulais parler des joueurs en détail ou pas?
Les joueurs, le club, en fait, les joueurs, ils sont à l'image du club, ils sont à l'image de l'entraîneur. C'est beaucoup de joueurs qui ont découvert la Ligue 2 déjà cette année, qui découvriront, je leur souhaite, je ne sais pas exactement ce qui se passera dans l'effectif, mais la Ligue 1 l'an prochain, avec des joueurs qui étaient, voilà, qui avaient faim, qui étaient revanchards pour certains, qui venaient de, d'en dessous comme l'entraîneur, et qui ont cru en, en ce projet, qui ont cru aussi au président qui est en place, et toute cette équipe qui a excellemment travaillé avec, moi, j'en parle aussi parce que il y a un joueur, William Arrous, qui était avec nous les deux dernières saisons, qui a signé au Mans cet été et qui a donc découvert la Ligue 2 et qui découvrira la Ligue 1. Donc forcément, c'est un club que nous on a suivi particulièrement et qui est un exemple pour pas mal de clubs, comme Strasbourg avait fait déjà à une époque, de passer de la National 2 à la Ligue 1 en quelques années. C'est fort.
Alors le fait que l'année prochaine il y ait, quoi, vous avez dit 25-30 millions le budget
environ, oui.
Et que vous acceptiez l'idée que ça puisse mal se passer et que vous retourniez en Ligue 2. Mais si en revanche ça se passe bien, est-ce que l'idée c'est d'augmenter ce budget année après année ?
En fait,
c'est quoi au final l'idée ? Parce que si vous dites l'idée c'est juste de revendre dans 4 ans et tout, franchement ça fait pas rêver. Je veux dire, c'est du business, d'accord ? Mais pour les gens du Mans et tout, qu'est-ce qu'on leur vend en fait ?
Alors, j'ai pas dit qu'on allait revendre dans 4 ans. J'ai pas dit ça. J'ai dit les cycles d'investissement sur les fonds d'investissement étaient de 4 à 7 ans. J'ai dit que les coups de fil étaient plus longs. Dans le foot, on était plutôt sur 10 ans, mais notre objectif, c'est pas de faire une, enfin, c'est aussi de faire une plus-value, oui, mais notre objectif, c'est de mettre Le Mans en Ligue 1, de structurer le club étape par étape pour qu'il s'y installe. Je précise, on veut absolument rester en Ligue 1 l'année prochaine. Maintenant, on assume aussi, on va pas faire n'importe quoi à mettre 50 millions sur la table, griller tout l'argent pour derrière gagner 1 ou 2% de chance en plus de se maintenir. Voilà, je pense que ça sera peut-être plus important de structurer le club et se dire bon, on descend en Ligue 2, mais on revient plus fort en Ligue 2 et ensuite on revient en Ligue 1, plutôt que se dire on reste 2 ans en Ligue 1 et ensuite on met la question là-bas.
Même si ce discours-là, c'était un peu le discours des Stéphanois quand ils sont descendus l'année dernière, on a vu que c'est difficile quand on redescend d'accéder. Elle est de plus en plus compétitive, la Ligue 2, ce qui d'ailleurs valorise encore plus ce que vous avez fait cette saison. Mais là, l'année prochaine, la Ligue 2, par exemple, c'est Saint-Etienne, c'est Nantes, c'est Reims, c'est beaucoup de gros clubs.
Parce que la Ligue 2, et je parle sous ton contrôle, c'est pas du tout la même que la Ligue 1. Nous, honnêtement, quand on a joué contre Reims ou Saint-Etienne, individuellement, les joueurs en face, nous, on ouvrait les grands les yeux, en fait. Donc, du coup.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que techniquement, on avait des joueurs et physiquement des joueurs qui, individuellement, étaient certainement au-dessus des nôtres. Quand on voit l'attaque de Saint-Etienne, par exemple, ou quand on voit les joueurs, ou Zabi qui joue en Ligue 2 qui vaut 25 millions, ça se voit quand même sur le terrain. Après, il y a une question de style de jeu, de collectif, et aussi de hargne et de volonté. Nous, notre force quand on est monté, c'est qu'on a gardé cette dynamique, que les joueurs, ils avaient faim, ils avaient très faim. Et en fait, ça s'est vu, chaque ballon, en termes de pressing, de contre-pressing, je pense que Le Mans, c'était la meilleure équipe de loin. Après, techniquement, individuellement, chaque joueur, on n'est pas forcément les meilleurs joueurs, mais par contre, collectivement, le coach, là où il était bon, c'est qu'il avait une clarté sur ce qu'il voulait faire. Et les consignes, elles passaient de manière très claire au niveau des joueurs, et donc tout le monde comprenait le projet de jeu.
A priori, vous allez recruter en quelle proportion? Cet été,
À peu près un tiers de l'effectif. Aujourd'hui, on a deux joueurs uniquement qui ont eu quelques matchs en Ligue 1. Donc Rabillard à l'OM qui a dû jouer 5 matchs et Bouadès qui a fait quelques matchs aussi en Ligue 1. Et il est sûr qu'il faut qu'on ramène de la compétence Ligue 1 pour se donner le plus de chances de se maintenir. On en est conscient. On garde quand même cette dynamique et aussi une ossature par rapport aux joueurs qu'on performait, voire surperformait cette année.
Non, mais je repose la question. L'année prochaine, c'est 25 millions. Si vous restez en Ligue 1, est-ce que l'année d'après, ça peut augmenter, passer à 40 ou 50 millions ? Est-ce qu'il y a un deuxième étage à la fusée ?
Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, oui. Mais une fois de plus, on construit le club étape par étape. C'est-à-dire qu'on va aussi créer de la valeur joueur. Et de la valeur joueur, qui dit valeur joueur, dit aussi valeur de revente. Ça fait aujourd'hui partie du business, d'autant plus avec les droits télé qui sont très limités. Donc forcément que...
Ça vous attriste ?
Ça, on le savait avant.
Vous découvrez pas la Ligue 1, non. Puisque vous l'avez dit, vous avez bossé à 3, vous connaissez les réunions de la LFP, vous connaissez les présidents.
Attends, Daniel, là-dessus, j'aimerais qu'on fasse la pause maintenant, comme ça on peut en parler en longueur et comme ça on sera pas coupé au milieu.
Pour valoriser les joueurs, forcément, il faut avoir les infrastructures qui permettent aux joueurs de se valoriser, les terrains d'entraînement de grande qualité, il faut avoir, je pense qu'ils en ont, mais voilà, que ce soit une salle de muscu, de la balnéo, enfin bref, des trucs pour la récupération. Et c'est aussi ça qu'aujourd'hui, beaucoup de clubs cherchent à se structurer à l'image de même du plus grand club français qui est le Paris Saint-Germain qui a fait Poissy pour valoriser les actifs et le club.
On y revient dans une seconde avec notre invité, à tout de suite.
RMC, l'After Foot.
Jean-Louis Tour.
23h41, c'est l'After sur RMC jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Jimmy Brown, avec Kevin Diaz et notre invité Aymeric Magne, donc le représentant de l'actionnaire au Mans. Et c'est le moment où, Daniel, tu voulais parler des questions de gouvernance du foot français avec Aymeric. Des difficultés avec les droits télé.
Oui, effectivement. Vous arrivez, vous revenez en Ligue 1. Donc, bah, finalement, il n'y a plus de différence entre être en Ligue 2 et Ligue 1 au niveau de l'oseille qui rentre pour les droits télé. Quand vous êtes parti, c'était pas comme ça. Comment vous redécouvrez la Ligue 1? Comment vous analysez la situation et ce qui se passe? Et est-ce que vous croyez à une issue favorable un jour ou l'autre? Parce qu'on commence à désespérer que ça puisse bien se passer, quoi, ou bien se terminer l'histoire.
On redécouvre pas parce que quand on a acheté le club, on savait exactement où on allait. On avait les droits et du coup ça a aussi participé à la dévalorisation de du prix d'acquisition forcément. Ça aurait peut-être pas été la même chose si on avait les droits d'avant. On a touché à peu près entre 1,6 et 1,8 sur la Ligue 2. On va toucher 5 millions sur la Ligue 1 avec 2 de garantie. Pour être clair. Okay. On soit clair. Ça veut dire qu'il y a 2 millions de garantie plus 3 millions qui viennent du fonds de réserve. Donc ça veut dire que quand moi j'étais à 3, on était sur entre 18 et 21. Donc la différence elle est énorme et du coup la différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2, je dis bien le bas de la Ligue 1 parce qu'il n'y a pas les droits qui sont liés à l'UEFA, elle est relativement faible, ce qui fait qu'entre guillemets si on redescend le risque
il y a pas de peur, alors qu'avant on disait c'est catastrophe financière
alors que les salaires forcément sont plus élevés qu'en Ligue 2. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut être raisonnable et raisonné et essayer de pouvoir garder une masse salariale cohérente puisqu'il y a un risque de retourner en Ligue 2 et surtout qu'il faut adapter aujourd'hui les salaires à la réalité de la Ligue 1 et c'est un vrai sujet.
On sait que le président du Mans, puisqu'on en avait parlé avec lui, n'est pas le plus grand défenseur de la gouvernance actuelle et du président de la LFP. Comment vous avez analysé la situation et le fait qu'on soit arrivé à zéro et qu'on n'ait plus du tout de droit télé, qu'on ait une chaîne Ligue 1 Plus parce qu'on n'avait pas d'autres solutions finalement, qu'on n'arrive à trouver aucun accord avec des diffuseurs?
Donc, premièrement, nous, on n'a pas de surprise et on le savait. Donc ça c'est une première chose. Donc pour nous c'est un upside sur la suite. C'est-à-dire que dans notre business plan, on estime que la valeur de la Ligue 1, elle est pas adaptée. Ça c'est clair et net.
C'est quoi selon vous la valeur de la Ligue 1?
Alors je dis, Saada était venu à l'époque dans un conseil d'administration de la LFP. Il nous avait expliqué par A plus B que le prix c'était entre 500 et 600 millions d'euros. Aujourd'hui on est entre 150 et 200 millions d'euros. On estime qu'il y a un juste.
Touche pas les 150-200. Aujourd'hui.
Je parle de la valeur globale. Oui. Si on compare, on compare les choses. Saada, il nous avait parlé de valeur globale. Donc on
mais
estime.
Comment il l'estime, pardon, mais c'est tout simple. C'est le prix de l'abonnement fois le nombre d'abonnés. On tombe
globalement
loin,
plus 500, la pub, quoi. Etc. Globalement, il avait fait son calcul et il l'avait montré. Il l'avait d'ailleurs montré de manière magistrale. Hein. Enfin, c'était une belle démonstration.
C'était quand ça?
C'était en 2022 ou 2023, si je me trompe pas.
Oui, parce que récemment, il a dit que ça valait plus que 200.
Après, forcément, le produit aujourd'hui, c'est aussi une question de concurrence. Il a été déprécié.
Le produit n'est pas plus mauvais qu'il y a 3-4 ans. Hein. Même en termes de qualité de jeu, de match, alors on a peut-être moins de vedettes. Mais c'est le fait de changer de diffuseur tout le temps.
C'est le manque de visibilité. C'est pas la qualité des matchs, c'est le manque de visibilité. T'as changé de diffuseur 1000 fois et tout ça.
J'ai bien compris, mais à force d'avoir usé les diffuseurs, d'avoir rompu la relation avec Canal, enfin tout ça c'est les gens qui dirigent le foot français qui ont fait tout ça.
On est d'accord.
Donc aujourd'hui on se retrouve à zéro.
Ouais.
Est-ce que d'après vous il y a une issue possible à un moment? Est-ce qu'on est capable de retrouver? Maintenant on ne dit plus un diffuseur, on dit un distributeur.
Ouais. Je pense que la première chose à faire c'est que on essaie de marketer au maximum le produit Ligue 1, ce qu'on n'a pas fait jusque-là. On a essayé de faire des négociations à mon sens, soit en gré à gré ou des appels d'offres qui n'étaient pas forcément adaptés. La priorité c'est que le championnat soit sexy. Et aujourd'hui, à mon sens, il l'est pour personne. Alors que pourtant, comme vous le dites, la qualité de jeu, elle est là. On est le premier fournisseur de talent au monde. On vient de faire deux Champions League d'affilée, alors c'est le PSG, hein, c'est autre chose, mais ça fait partie du championnat de France.
Donc comment on le rend sexy, pardon? Mais comment on rend le produit sexy? Vous dites qu'il faut qu'il redevienne sexy.
Bah déjà, moi, si je suis diffuseur, déjà, vu les catastrophes de ces dernières années, déjà, je me dis, moi, je vais pas parler avec le président de la LFP qui a géré le foot français comme il l'a géré. Je ne vais pas parler avec la LFP qui est dirigée en sous-main par un seul club. Déjà, je veux que ce soit nettoyé, propre, que tout le monde vienne me voir et que j'ai des gens unis face à moi, que j'ai pas des gens qui se font la guerre en permanence, comme encore aujourd'hui, puisqu'il y a eu un CA aujourd'hui pour dire que la proposition de loi qui veut réformer la gouvernance, c'est de la merde.
Il y a un communiqué de la Ligue.
C'est ce qu'on dit aujourd'hui.
Avec ces mots-là, mais
c'est ce qu'on dit aujourd'hui, les gens qui étaient réunis au CA. Quand on voit la liste des gens, quand on voit la liste des gens qui aujourd'hui étaient au CA, Valdemar Quitta, Sartori, personne ne sait qui c'est Sartori, hein, à part que c'est le gendre de Ribot et que c'est un laquais de Nasser. Donc j'ai dit Quitta, Sartori, Joannin.
Bernard Joannin, Damien.
Murat, qui a été acheté en trois restos. On a qui d'autre? On a Carl Olive. Carl Olive, il va à l'encontre du gouvernement et du parti avec lequel il est. Parce que maintenant, il est passé dans le parti de Macron. Donc, le cornu a dit que cette loi était importante. La ministre des Sports a dit que cette loi était importante. Mais lui, tellement il est fan baduf du PSG, que de toute façon, bonjour Nasser, merci Nasser, au revoir Nasser.
Les temps,
on le sait. De toute façon, il a pris une autre option qui est, je pense à ma gueule, je gère mon dossier tout seul et j'y arrive parce que je suis le meilleur. Et parce que Lille, j'arrive à gérer ça tout seul et j'ai plus besoin de personne. Puis comme en plus, l'actionnaire au-dessus est pote Qatar et tout, donc il n'y a pas rien à dire.
Loïc Ferry?
Bah, Loïc Ferry, okay. C'est cuir chemise avec la brune, son ami de 20 ans.
Ah, j'en ai un là. Victoriano Medeiro.
Bah, déjà, évidemment. Sa présence au CA est complètement délirante.
Bien sûr.
Parce que c'est la deuxième voix du PSG, donc voilà. Délirant. Voilà. Bon, ben voilà.
Marc Keller?
On a tout dit. Bah, Marc Keller, il décide même pas. Je blaguais avec Kevin tout à l'heure parce qu'il n'a pas le droit à la télécommande à la maison.
Ah, bah oui,
il Keller, même dans son club. Il décide de plus rien à Strasbourg. Parce qu'il vient au CA, pourquoi faire? Voilà. Ça sert à rien.
Et donc, ces gens ont appelé une révision en profondeur, voilà, du texte.
Qui est des choses à revoir sur le texte, je peux être d'accord. Mais aujourd'hui, encore une fois, l'image.
Les différents points ne sont pas délirants.
Voilà. Ils disent que la lutte sur le piratage n'est pas assez bonne dans le texte. Le modèle économique sur les droits télé n'est pas assez bon.
Bah, oui, merci.
L'impact financier direct des clubs via les paris sportifs.
Aujourd'hui, moi, si je suis diffuseur, je me dis, mais soit j'ai des mecs en face de moi qui sont tous d'accord. Il me présente un projet, il y a les 9 matchs, on avance, on arrête de se faire à la guerre. Et j'ai pas d'un côté tous les mecs que t'as cités et de l'autre côté, parce que faut citer les autres maintenant. Marseille, Lyon, Rennes, Lens.
Le PFC.
Mmh. On est en train de parler de gros clubs quand même, hein.
Le Mans, du coup.
Le Mans, du coup, maintenant, qui va être dans le camp d'en
face. Je parle pour vous, hein, mais c'est Thierry Gomez qui nous avait parlé quand il était venu au Mans en février.
Moi, si je suis diffuseur, je me dis, attends, mais soit il me nettoie la vitrine. Et on avance et on travaille ensemble. Soit j'y vais pas, quoi. Parce que je sais jamais de quoi ils sont capables. Non, mais t'as vu les bras cassés.
Pour revenir sur ce que tu disais juste sur la question de distributeurs-diffuseurs, ils espèrent bien revenir à des diffuseurs, parce qu'il y a un des points où ils disent on veut pas d'affiche en clair pour pas nuire au prochain appel d'offres. Donc ils espèrent bien qu'il y a un prochain appel d'offres et qu'il y a un nouveau diffuseur.
Ça, je l'entends. C'est voilà. Quelque chose qui
mais j'aimerais bien, du coup, la réponse à la question que j'ai posée à Wickman sur le fait de rendre sexy le championnat, comment on fait, en fait?
La première réponse, et je pense que c'est là où t'as raison, Daniel, c'est que il faut qu'il y ait un intérêt collectif. Et c'est très difficile de trouver un intérêt collectif entre différents clubs. Pourquoi ? Parce qu'on parle pas de. D'un côté, il y a des très gros clubs qui aujourd'hui se focusent uniquement sur des droits UEFA.
Exactement.
De l'autre côté, il y a des petits clubs, c'est un championnat de 5-6 en Ligue 1, Le Havre, Le Mans, qui se battent pour 4-5 millions d'euros. De l'autre, on a la Ligue 2 qui récupère 1 à 2 millions d'euros par club. Donc en fait, on parle pas tous la même langue. Et le problème, c'est pour construire un produit, et c'est ce que font les ligues fermées, hein, je suis désolé de le dire, mais en fait, ils se mettent tous autour de la table. Ils s'accordent d'abord, et derrière, ils ont un produit qui est cohérent, consistant, et ils arrivent avec une seule voix, et c'est comme ça que ça marche.
T'as pas besoin d'être une ligue fermée, regardez l'APL par exemple, voilà. C'est pas
mais
fermé.
Je donne l'exemple pour exagérer, bien sûr, la Ligue 1.
Aujourd'hui, la première ligue, c'est bien sûr l'exemple, mais ce n'est pas que la première ligue. En fait, bon, pour ceux qui suivent un petit peu les épisodes de la série sur le petit club gallois de Wrexham, en fait, tu comprends que déjà, il y a la Football League, c'est-à-dire les quatre premières divisions professionnelles. Si tu rentres dans les quatre premières divisions professionnelles, donc disons en France, on a transformé le national cette saison en Ligue 3 à partir de la saison prochaine, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'en France, voilà, la Football League française, c'est la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3. Si les clubs français ne se rendent pas compte que tout le monde doit manger, parce que si tout le monde mange et que tout le monde mange à sa faim, de la Ligue 1, du premier au dernier, mais également jusqu'au dernier de la Ligue 3, voire à ceux qui vont descendre dans le futur national, eh ben ça permettra à tout le monde d'aller piocher dans ces clubs qui seront mieux structurés, comme font les clubs anglais qui vont régulièrement prêter ou piocher dans les divisions inférieures, parce que ce sont des clubs qui sont bien structurés. Et donc, en pensant collectif, eh ben on va tous arriver plus loin. Mais en pensant que d'abord, je garde mon prêt gardé, d'abord, c'est mon club, d'abord, c'est mon bilan...
Le pré carré.
En gardant son pré carré, eh ben je peux te dire que c'est pas comme ça que tu vas arriver à faire grandir la Ligue 1 et le football français.
Et là aujourd'hui, c'est chacun sur son cul.
Voilà.
Parce qu'il y a également dans le CA aujourd'hui, il y avait également l'UNFP. L'UNFP, c'est fragile l'UNFP. Et puis ils ont tous leurs petits avantages. Ils sont bien, ils vont pas se brouiller avec le grand patron. Donc ils sont là, ils disent bon alors vous décidez quoi, bah allez on est avec vous. Voilà, c'est comme ça là, ils sont tous derrière. On sait, on l'a raconté mille fois. De toute façon, on sait.
C'est pour ça que les investisseurs privés arrivent, parce qu'il y a des besoins de cash, pour être clair, et ils viennent et ils pensent que en travaillant de manière collective, et c'est ce qu'ils voient dans d'autres pays. Donc et c'est peut-être ce qui va arriver un jour sur la Ligue de football professionnelle.
Il faudra aller changer le CA déjà. Mais là le CA il est complètement verrouillé. Le CA, il est pro-Nasser, 100%. Et lui, le développement de la Ligue 1, on a bien compris que ça ne l'intéressait plus maintenant. Parce que lui, il est dans le développement européen et mondial du PSG. La Ligue 1, c'est juste son tapis de course. C'est juste une réalité, c'est tout.
Je pense que les objectifs du PSG, c'est de chaque année gagner le championnat de France, la Coupe de France et surtout la Champions League.
Oui, ouais, mais en fait, le problème, c'est gagner la Ligue 1, même s'ils sont deuxième une fois, l'important, c'est qu'ils soient en Ligue des Champions, c'est tout. Et ça, ils le sont les yeux fermés. Donc... La Ligue 1, le développement de la Ligue 1 ne les intéresse plus. C'est plus leur marché. Ils ont plus de marché en Ligue 1, c'est terminé.
Bah, je pense que si la Ligue 1 est faible, sur le long terme, ça ne les aidera pas à gagner une 3e, une 4e, une 5e Champions League. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 2008, il y a tout Lalan qui disait l'entraînement, c'est plus dur que les matchs de championnat, à l'époque du Grand Lyon. Mais ça a fait une certaine limite à mon sens dans leur développement, et Lyon aurait pu gagner la Ligue des Champions peut-être s'ils avaient un peu plus de concurrence. Donc après, avoir un deuxième, un troisième,
le paradoxe du PSG, c'est deux Ligues des Champions alors que justement il y a une Ligue 1 faible.
Le problème c'est le foot a beaucoup changé depuis cette période là et aujourd'hui si tu te mets uniquement dans une préparation comme ils l'ont fait cette année où la Ligue 1 sert d'entraînement et que effectivement ensuite l'entraînement le vrai est même plus dur que les matchs de Ligue 1, ils arrivent au top en termes d'intensité et de physique et de forme physique pour la Ligue des Champions. Et surtout la Ligue des Champions a changé. Maintenant il y a plus de matchs. Donc plus de matchs, ça permet d'être dans le haut niveau plus souvent. Et donc on n'est plus dans le cas de figure de Lyon où ils avaient besoin de concurrence. Aujourd'hui le PSG a plus besoin de concurrence en Ligue 1.
En revanche, ce qui est vrai, c'est que si le fait de prendre la Ligue 1 comme un entraînement et qu'en parallèle il y a des équipes qui se développent, oui, mais peut-être que tu peux perdre le titre à force parce qu'il y a d'autres qui travaillent mieux. Ce serait ça une logique de championnat
compétitif. Il y a quand même une différence de x2 x 2,5 sur le budget de celui qui est derrière quand même, hein.
Mais même plus.
Oui, même avec les remplaçants, tu veux
dire. Minimum.
Oui, oui. Le PSG depuis 2012, elle a donc perdu deux fois, donc en 15 ans. Et si jamais il devait le reperdre une autre fois, et alors quoi?
Oui,
et alors? Est-ce que c'est un drame? Tu termines deuxième, tu retournes en Ligue des Champions.
Là, il a raison.
C'est plus leur marché.
L'objectif du PSG, c'est la Ligue des Champions.
Et même ton marché et même ta clientèle ne serait même pas affectée par la perte du titre, au fond.
Bon, Aymeric, merci beaucoup.
Merci à vous.
On va suivre ce projet parce que franchement on est
Pour rendre la Ligue 1 sexy, Djokovic et consort.
Quand Djoko vient, j'appelle Daniel.
C'est quoi les futures étapes là? Donc il y a une nouvelle star qui arrive. C'est ça ce que vous nous avez dit tout à l'heure.
Non, il me parlait d'investisseurs. Étapes, c'est transitionner d'un mercato de Ligue 2 à Ligue 1 quand on vient de National. Donc là, il y a un vrai travail de fond avec beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs. Ça, c'est certain.
Et donc, qui va s'occuper de tout ça,
On est en train de.
C'est la direction en place. Il va y avoir un directeur sportif.
On va structurer le club à la fois sur la partie administrative, business.
Et sportif, s'il change vite d'avis. On ne sait jamais. Attends, d'ailleurs, on en a pas parlé de l'histoire. Non.
Bah, tu veux le. Non, mais on peut en parler là, si tu veux.
Non, on n'a pas le temps. On fera demain.
Bon, je te gardais trois minutes, hein, je pense que c'était bon. Bon, très bien. Merci, Emeric. J'ai deux, trois infos pour finir quand même. C'est pour ça qu'on aurait pu parler de Lorenzi, mais c'est pas grave. Donc, sur Lamine Yamal. Donc, on repasse sur la Coupe du Monde. Il y a inquiétude après sa blessure. Il est touché aux ischio-jambiers. Et bah, De La Fuente a été très rassurant aujourd'hui. Si tout se poursuit normalement, comme jusqu'ici, il devrait être prêt pour le match du 15 juin. Donc, pour l'entrée en lice de l'Espagne.
Grade 2, 3 à 4 semaines voilà. Pour être au top, c'est normal.
C'est pas pour autant qu'il va jouer le premier match, dit De La Fuente. On verra la situation à ce moment-là. Donc peut-être aussi qu'ils vont le préserver un peu sur le début de compétition. Mais voilà.
Non, sur Lorenzi, ce qu'on a appris de nouveau, c'est qu'en fait, certes, il a donné son accord à Nice et signé le contrat le jour de Marseille-Nice, donc fin avril.
Ouais.
Mais en fait, l'histoire, c'est pas. Je signe à Nice et ensuite l'OM s'intéresse à moi et donc forcément ça me fait changer d'avis, tout ça. En fait,
ça, c'est ce qu'a raconté Jean-Pierre Rivère, notamment en fait, dans l'after après le barrage.
Discutait.
Qu'on en plus
en. Non, je crois pas. En fait, Greg Lorenzi discutait avec les deux clubs. C'est pas l'OM qui est venu après Nice, il n'y a pas une chronologie.
Ah oui.
Il
oui.
discutait avec les deux.
Ça, c'est la vérité, mais c'est pas ce que racontait Rivère, c'est bon, ça que je te dis. Mais ok.
Il discutait avec les deux clubs, donc il savait très bien que l'OM était intéressé. Et malgré tout, il a décidé d'aller à Nice. Donc, il avait d'abord donné sa parole, puis signé le contrat. Mmh. Et Marseille soutient, encore aujourd'hui, à Marseille, on dit, mais nous, on ne savait pas que Lorenzi avait signé un contrat. Ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, ça veut dire que c'est Lorenzi la personne bizarre dans l'histoire. Parce que si tu discutes avec deux clubs, que tu finis par en choisir un et que tu annonces « c'est bon, je signe, je suis avec vous » et que tu ne vas pas voir l'autre pour lui dire « j'ai choisi », je trouve que c'est quand même très bizarre comme méthode.
Et surtout, moi, je comprends pas ce qui l'a fait changer d'avis, puisqu'il parlait autant aux deux clubs, tu vois. S'il s'engage avec Nice et que Marseille se réveille, bon, bah, ok, ça peut se comprendre et
alors, tout. Mais s'il parle avec ces deux à égalité. Ce qui a pu faire changer, c'était effectivement la situation du club à ce moment-là, ouais. Même s'il y avait la clause elle était nette dès le départ. Mais il y a tout ce qui a commencé à circuler sur l'éventuelle vente du club. En gros, je ne sais pas où ça va finir par aller. Mais pour Nice, c'est forcément un préjudice. Et là, je comprends parfaitement Jean-Pierre Rivière la raison. Parce que dans le laps de temps, ils ont viré Flo Maurice. Mmh. Et il dit, bah, attends, mais maintenant tu nous dis non. Nous, on n'a plus de directeur sportif. Donc, il faut qu'on se mette à rechercher un directeur sportif. Et puis encore maintenant, on est resté en Ligue 1. Je dis, bah, attends, oui. Où tu nous plantes.
Bah, oui.
Donc, moi, je comprends parfaitement qu'il y a un préjudice qui va forcément se terminer au prud'homme. Mmh. Lorenzi veut aller à l'OM, il va à l'OM. Mais ce que je trouve très bizarre, c'est que si à l'OM on dit bah ouais, l'autre il nous a pas prévenu qu'il avait signé un contrat.
Mmh. Mais il y a l'histoire donc du CDI éventuellement pour Lorenzi.
Ça veut dire que c'est Lorenzi qui est quand même une personne à la parole un petit peu douteuse quand même.
Ce qui peut éviter les prud'hommes, c'est s'il y a donc bien un CDI à Marseille qui passe au-dessus le CDD éventuel à Nice. Ah. Bon, on en reparlera et on vous tiendra au courant dès qu'on aura de nouvelles infos. Les nuits du Casar enchaîné arrivent tout de suite. Bonsoir.
Et bonsoir, bonjour à tous. J'ai l'impression qu'on s'amuse bien sur ici.
Hein, comment ?
Une heure spéciale sur Lorenzi.
Sur Le Mans. On va faire une heure et demie sur Le Mans. Déjà, vous avez fait combien ?
Excuse-moi, Le Mans.
45 minutes. Bravo, monsieur. Respect. 45 minutes sur Le Mans.
T'as vu les stars qu'ils ont ?
Je sais, mais c'est. C'est...
Est-ce que tu veux des boissons énergétiques ?
Énergisantes. Non, énergétique.
C'est une barre énergétique, peut-être.
Ah. Non, c'est une boisson ouais, énergétique, énergisante.
Ouais, ouais, même le mec, il ne connaît pas le nom. C'est quoi ton
nom ?
C'est le Marie Sabalenka. C'est pas lui, le Marie Sabalenka. C'est vous, le Marie Sabalenka. Mais non, c'est vous. Mais putain, on comprend rien. 40 minutes sur le vent, puis de la Coupe du Monde. Là, on craque. On arrive au bout du carton.
Et vous parlez de quoi ?
On va parler de Xavier Dupont de Ligonnès.
Ah, mais c'est pour demain.
Non, demain.
Ah, demain, d'accord.
Donc là, on va parler des séances.
Extraordinaire. Épisode avec le faux prêtre.
Ah là, je pense que là, Julien Courbet, là, non, il va partir avec Patrick Bruel en fin de carrière.
Ah là, c'est mythique.
Compliqué. Non, là, c'est demain que vous avez eu pour Liganès. Aujourd'hui, c'est sûr. Et ça va être fabuleux. Oui. Dominique Rizet, on aura tous les meilleurs. Non, mais là, demain. C'est pas une blague.
Oui, d'accord.
Là, ce soir, c'est les séances de tir au but les plus stressantes que vous ayez vécues.
Vous l'avez pas déjà fait, ça.
C'est pas hier soir, ça.
Attends. On va faire l'after va nous faire un procès en vous l'aviez déjà fait.
Les séances, en fait, elles ne tiennent qu'à la personne qui la regarde parce que son cœur est
sûr. C'est le principe.
J'ai déjà entendu deux émissions. Les gens,
on est ravis que tu écoutes l'émission.
Pardon, je suis désolé. Excusez-moi, j'arrive dans l'émission. T'es complètement cramé, Casar.
Ah oui, c'est pas ça du tout.
Non, mais ça, c'est une question de présentation.
C'est ça.
Ok. Ce soir, on fait les lâcheurs.
Un message.
D'accord.
T'as raison.
Les gens qui lâchent.
On fait les lâcheurs. Tu peux être pour la ramasse.
C'est quoi les gens qui lâchent?
Les gens qui lâchent. À cause de Pierre Sage qui a lâché, qui hier s'élance.
Jacques Delors, il lâche aussi.
Très bien.
Mussolini. Alors lui, bon, c'est... oui, on en parle beaucoup. Il a un peu lâché.
Merci. Allez, c'est parti pour les nuits du Casar enchaîné. Et l'after revient demain après le match des Bleus contre la Côte d'Ivoire. Ciao.
RMC, l'after foot.